Il y a pas de test micro là, tout va bien.
Porto, ouvre les yeux, c'est l'heure.
Bah je suis là, j'ai la pêche. Bienvenue dans la matinale de Bartas.
Un max de local et un peu d'autre chose. Les bonnes ondes sont sur le 107 FM.
Décollage immédiat
pour les matinales de Bartas. T'as tes lunettes, bordel.
Allez, bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur le 107, bienvenue sur Radio Bartas. Nous sommes le mercredi 30 mars, il est 8h30, la pluie ne l'a pas arrêté ce matin à la Corto Technique. Salut.
Salut, c'est moi Technique, à la Corto comme d'habitude. Bonjour à tout le monde.
Ça c'est du matin de ouf. Au programme de cette matinale, nous serons dans un instant avec Cadel au téléphone. Elle est chargée de com' pour le festival de la Meufolle qui aura lieu à Alès les 8 et 9 avril prochain, une super prog. Et nous sommes partenaires du festival, on est très contents de l'être. Dans la foulée, nous rediffuserons l'interview de Lou qui a un élevage équin. Et enfin, Titouan qui a été en stage chez nous, a été parti à la rencontre de Walid Ben Selim à Chanak. Ce sera en dernière partie d'émission. La prog musicale, évidemment, c'est spécial Meufolle ce matin et on y va, on commence par l'édito.
On peut être en désaccord. Mais enfin, vu le ramassis de saloperies que je vous ai dégoté là...
Ce n'est que l'édito des Bartas.
Ben voilà, c'est fait. Hein. Certaines affaires judiciaires vont désormais être filmées. Alors, bonne ou mauvaise nouvelle, en tout cas, faire entrer la justice dans le salon des Français, c'est le souhait d'Éric Dupond-Moretti, le ministre de la Justice, notamment grâce à l'article 1er de la loi pour la confiance dans l'institution judiciaire, dont le décret d'application est attendu dans les prochains jours. Avec ce nouveau texte qui autorise la captation vidéo des audiences, le ministre de la Justice espère que les Français comprennent mieux le fonctionnement de cette institution. Si cette loi maintient la règle générale d'interdiction de filmer les procès, elle permet, je cite, un nouveau régime dérogatoire d'autorisation d'enregistrement, sonore ou audiovisuel, des audiences judiciaires et administratives, fondées sur un motif d'intérêt public, explique le ministère de la Justice. Jusqu'à présent, seuls les procès historiques sont filmés, hein, comme c'est le cas actuellement pour le procès des attentats de janvier 2015, et les images conservées aux archives nationales consultables uniquement par des chercheurs. Désormais, après autorisation, un journaliste, un média ou une société de production pourra filmer tout type de procès, audience d'assises, correctionnelle, civile ou commerciale, présentant un intérêt public d'ordre pédagogique, informatif, culturel ou scientifique. Pour éviter que cette révolution ne vienne parasiter le cours de la justice et des délibérés, les audiences ne pourront être filmées qu'une fois l'affaire définitivement jugée, c'est-à-dire après l'éventuelle procédure d'appel et avec l'accord des parties, évidemment. Une exception sera faite pour les audiences à la Cour de cassation et au Conseil d'État, dont les images pourront être diffusées le jour même en différé. Le président de l'audience pourra à tout moment arrêter ou suspendre l'enregistrement. Certaines mesures ont heureusement été prises pour garantir la présomption d'innocence, le droit à l'image ou encore le droit à l'oubli. Alors, j'ai pas encore d'avis là-dessus, de toute façon c'est rare quand je le donne, mais une chose est sûre, tous les professionnels de la justice réclament plus de moyens, finalement comme le milieu carcéral, comme celui de la santé, de l'éducation et j'en passe. Alors, savoir si un procès doit être filmé ou pas, est-ce vraiment l'important? Dupond-Moretti a sans doute fait appel à McKinsey pour reprendre cette superbe idée, voilà, pas pu m'empêcher d'en parler. Sans transition aucune, le groupe d'Anakin sera en concert le vendredi 8 avril à la Meufolle. On sera avec Adèle chargée de com' du festival dans un instant au téléphone. La chanson s'appelle « Monde de fou ». Ah bon ?
Psychologique, exploitation sans limite, réchauffement climatique contre progrès technologique, les guerres sont biologiques.
Qui détient la solution? Qui va payer l'addition? Tous montés dans le même bateau, les coupables et les innocents. On est fort pour faire des promesses, mais la réalité c'est que ça reste des promesses. Le crédit est épuisé.
On vit dans une époque de dingue, allons-nous trouver des repères? Aurions-nous fini par nous perdre? Dis-moi si ce confort est nécessaire.
Et les gens savent bien que l'heure est grave, mais le système est en place et les entraves.
La liberté recule à chaque saison. Ils trouvent toutes les raisons, le monde est barge.
Où est dans ma place dans ce monde fou?
C'est tout comment faire pour qu'il reste debout.
Il y a la ramasse, où suis-je au rendez-vous?
Est-ce le même écho qui tourne autour de nous?
Où est dans ma place dans ce monde fou?
C'est tout comment faire pour qu'il reste debout. Qui tourne autour de nous.
Tu vas gagner de l'argent, mais tu perdras du temps. Génération sacrifiée, éteignez vos écrans. En quête de facilité, on ne veut plus faire d'efforts. Toujours les mêmes lois qui viennent asseoir les plus forts.
Qu'est-ce qu'on voulait construire quand tout a commencé? Qu'est-ce qui reste à détruire? Où en est-on arrivé? Vous voulez mon avis? Voilà, je vous le donne. Rien ne vaut la vie, dangereux sont les hommes.
Gardez votre or, vos égos, cela ne m'intéresse plus. On a eu tort d'ignorer les signaux de la nature. Est-il trop tard? Maintenant peut-on gommer les ratures? Y a-t-il un sort quelque part pour éviter le mur?
Musicalement, comme un médicament. Pour le peuple et un poisson, pour l'établissement. On dit les choses simplement comme on les ressent. Et la même question revient souvent.
Où est donc ma place dans ce monde de fou?
C'est tout comment faire pour qu'il reste debout?
Suis-je à la ramasse ou suis-je au rendez-vous?
Est-ce le même écho qui tourne autour de nous?
Où est donc ma place dans ce monde de fou?
C'est tout comment faire pour qu'il reste debout?
Suis-je à la ramasse ou suis-je au rendez-vous?
Est-ce le même écho qui tourne autour de nous?
On vient d'écouter Danakil, Monde de Fou, le festival de la Meufolle. Ils y seront et ça revient, ce sera les 8 et 9 avril prochains. Et pour en parler, nous sommes avec Adèle. Bonjour.
Bonjour.
Chargée de com pour le festival. C'est organisé par l'École des Mines d'Alès. Tous les ans, l'équipe de l'organisation change. Comment vous avez, si je peux dire, récupéré le bébé, sachant que l'année dernière, c'était une année un peu particulière?
C'était une année particulière parce que à cause de la crise sanitaire, on a dû faire une édition en ligne. Bien évidemment, ça a impacté un peu le festival, mais ça nous a aussi permis de survivre, puisqu'on est des étudiants et donc c'est une association. Donc ça nous a permis de survivre, de transmettre les valeurs de l'association à notre génération en tout cas. Mmh. Et donc ça nous a permis de survivre, mais ça va.
Et cette année, motivée plus que jamais parce que enfin une édition normale.
Oui, enfin.
Alors, c'est quoi l'École des Mines? On en entend beaucoup et souvent parler, mais finalement, c'est un peu flou pour nous. C'est quoi ça représente quoi l'École des Mines?
L'École des Mines, c'est une école d'ingénieurs en France, donc c'est une grande école d'ingénieurs qui est très vieille. Et ce festival fait partie de la vie associative de l'école depuis plus de 20 ans maintenant.
Dans votre dossier de presse, c'est écrit que l'École des Mines est un lieu de rencontre. Il y a une vraie dynamique étudiantine dans votre école à l'image du festival.
Oui, c'est sûr que pendant l'année, on organise tout plein d'événements sur le campus pour nous préparer au festival. Ça peut être par exemple des concerts, etc. Mais aussi pour faire part de l'esprit du festival aux étudiants de l'école pour qu'ils aient envie de venir en avril prochain.
Alors, comme tous les festivals, il y a besoin de bénévoles. D'ailleurs, je crois en 2003 et 2006, il n'a pas eu lieu faute de bénévoles. Est-ce que ça le fait cette année ou est-ce que vous cherchez encore et toujours des bénévoles et des forces vives?
Cette année, on a une équipe complète. On a 250 bénévoles comme les années précédentes. Donc, sur ce point-là, on est bon.
Trop bon. Et ouais, faut quand même savoir que 250 bénévoles, c'est 4000 spectateurs par soir, je crois. Hein.
Oui,
au maximum, en croisant les doigts pour qu'il soit là cette année, mais je n'en doute pas. Alors évidemment, air du temps oblige, le festival se veut éco-responsable. Qu'est-ce qui est mis en place pour être, entre guillemets, le plus propre possible?
Il y a plein de choses qui sont mises en place au niveau de, du développement durable. Déjà sur le festival, au niveau par exemple des toilettes, on fonctionne avec des toilettes sèches pour éviter tout ce qui est chimique, etc. On a mis pas mal cette année, on essaye de mettre en place par exemple des points d'eau qui, en fait, on a des problèmes de points d'eau sur le festival, donc pour éviter que les personnes se ramènent avec des bouteilles en plastique, on essaye de gérer ce problème en faisant des petits systèmes de séparation des points d'eau et pour distribuer plus facilement l'eau. On a aussi, par exemple, l'année dernière, mis en place des gourdes pour les artistes, pour un peu réduire le nombre de déchets plastiques avec les bouteilles plastiques qui sont, c'est vraiment un nombre important sur des festivals, donc voilà, c'est ce genre de choses qui sont mises en place sur le festival.
Et qui devraient être normales et dans tous les festivals d'ailleurs. Tu parlais des valeurs, donc l'écologie, on l'a bien compris, on est une. Quelles sont les autres valeurs que vous défendez ?
Je pense que l'une de nos valeurs, c'est beaucoup de travailler avec des acteurs locaux, que ce soit nos partenaires, nos principaux partenaires sont vraiment des acteurs locaux, des radios locales, de la presse locale, et je pense que c'est une de nos valeurs aussi. On met en avant chaque année un groupe, donc le groupe qui est le gagnant du tremplin, donc c'est un concert qui se déroule pour qu'on puisse sélectionner en fait le groupe qui ouvre le festival. Et en fait ce groupe c'est un groupe qui est local et qu'on essaie de mettre en avant et on les aide comme ça, et c'est aussi une de nos valeurs.
Cette année d'ailleurs les gagnants du tremplin c'est Zira Mairi, c'est ça hein?
C'est ça.
Alors justement, tiens, si j'ai un groupe, hein, alors j'en ai pas, mais si j'avais un groupe et que je voulais faire le tremplin, comment ça se passe ?
Le tremplin, il me semble que c'est à la fin de cette édition, on commence un peu à réfléchir à comment mettre en place le tremplin, la date, etc. Et courant de pendant les vacances d'été, on fait passer un dossier d'inscription et quand n'importe quelle personne qui a un groupe et qui souhaiterait participer au tremplin peut postuler. Et après, nous, on fait des sélections et au bout du bout, il y aura un groupe qui sera sélectionné pour le festival.
En tout cas, c'est Zira Mairi donc, qui ouvrira le festival le vendredi, c'est ça ?
C'est ça.
Eh bien, allons-y pour la prog. Alors, évidemment, c'est quand même 11 concerts sur 2 jours. C'est super, avec une belle affiche cette année. Le vendredi, HK, Bad, Broussailles et Danakil. Ça, c'est un peu pour la part reggae, dub et ska. C'est un peu votre identité musicale du premier jour ?
Oui, c'est sûr qu'on a toujours été un festival très orienté reggae. Mmh. Et on est aussi très dub. Donc, on a gardé vraiment cette année, on est parti sur une programmation très reggae, mais on a gardé un peu de dub. Donc, voilà, on est revenu vraiment aux sources du festival et ça nous fait plaisir.
Mais avec, alors, le vendredi, ça se terminera, si j'ai bien compris, par Bilix.
C'est ça.
Et là, on est plus un peu dans la rave, la tech, un peu, non ?
C'est ça.
Et pourquoi pas, hein. Après, il faut être éclectique. Et ça continuera le samedi avec Volodia, Catégorique, La Petite Fumée, Yanis Odua, Bizou et Bailey Bass Crew. Ici, on est aussi entre musique du monde, un peu de tech, de la dub. Bref, là, c'est quand même un peu plus éclectique.
Tout à fait.
Allez, on y va pour les infos pratiques. Comment ça se passe pour les tarifs et les résas?
Les tarifs sont en pré-vente, on est sur 24 euros pour un pass un jour et 36 euros pour un pass deux jours. Voilà.
Les infos, les résas, ça se passe sur lamefolle.com,
c'est ça ? Et la billetterie, voilà, sur lamefolle.com. Mmh.
La 19e édition, quand même ! Est-ce que toi, tu seras pour la 20e ?
Ah bah, j'espère, oui.
Toutes les infos, toute la prog, lamefolle.com. Merci Adèle et bon festival, à bientôt.
Merci beaucoup, à bientôt.
Nous a rejoint en studio Lou, bonjour.
Bonjour.
Ah, c'est un plaisir de t'accueillir et oh joie de mon boulot, c'est une première pour moi. On va parler de toi et de ton élevage équin. Corto, je suis content, je t'ai appris un mot. J'en suis très très content, on parle de chevaux ce matin. Alors est-ce que tu te souviens quand est-ce qu'elle a commencé cette passion pour le cheval ?
Voilà, la passion pour le cheval, elle a commencé il y a longtemps. J'étais vraiment gamine. Hein. J'ai commencé l'équitation à 5 ans. Et je pense que j'ai commencé à aimer les chevaux avant, parce qu'il y en avait un petit peu au village. Et donc, ouais, ça fait vraiment longtemps.
Des années.
Voilà.
Ton élevage est à Croupillac, c'est ça ?
À Croupillac, enfin, en partie à Croupillac et un peu partout autour, parce qu'il faut des terres.
Il faut de l'espace, ouais.
Et donc, on n'est pas en Normandie ici, on n'a pas beaucoup d'hectares d'un seul tenant, donc je me suis débrouillée, j'ai du terrain autour de Florac principalement.
Comment et quand est-ce qu'elle a commencé cette aventure ?
Alors, vraiment l'élevage équin ?
Ouais.
Donc l'élevage équin, en fait, moi je suis déclarée cotisant solidaire en tant qu'éleveuse depuis seulement 2020. Voilà, donc c'est tout récent. Maintenant, ça fait longtemps que je travaille dessus.
Ouais, faut du temps. Hein,
tu oui, faut du temps. Faut du temps pour s'y connaître. Faut du temps pour se lancer. Faut beaucoup de temps et de l'argent.
Évidemment, on va en parler d'ailleurs.
Voilà, exactement.
C'est quoi le plus dur quand on crée un élevage comme ça?
L'organisation, beaucoup. Les financements, beaucoup. Parce que
justement, ils viennent d'où?
Alors là, je suis totalement autofinancée, et autant dire que pour le moment, ça me coûte beaucoup plus que ce que ça me rapporte. Mais bon, c'est le but du jeu aussi, hein. Donc voilà, j'espère qu'il y a un moment donné où ça pourrait être rentable.
Ouais, c'est sûr que ça va être. Alors aujourd'hui justement, t'as combien de chevaux et de quelle race?
Alors, pour le moment, j'ai deux poulinières seulement. Donc je vais rester tout petit élevage. J'ai deux poulinières, une pouliche de 1 an, donc qui est née l'année dernière, ma première pouliche de l'élevage, et deux poulains qui sont nés cette année. J'ai aussi une vieille jument de 25 ans, ma première ponette, qui fait office de nounou pour les poulains. Voilà.
On en parlera tout à l'heure justement de comment ça se passe un peu tout ça. Et évidemment, quand on parle d'élevage, on parle aussi de vente. Alors déjà, ça doit pas être facile pour toi de te dire « Ah, je dois me séparer de lui ou d'elle ». Alors, à qui ils sont destinés? À qui tu les destines? Et toi qui as une éthique et qui aimes tes chevaux, comment ça va se passer avec les acquéreurs?
Alors, en fait, moi là, je fais de l'élevage de chevaux de sport qui sont plutôt axés saut d'obstacles ou concours complet, parce qu'il y a plusieurs disciplines. Ici, en Lozère, on a principalement des élevages de chevaux d'endurance, parce qu'on est un peu sur les terres d'endurance ici.
Et donc, on reviendra sur les 160 km tout
voilà.
à l'heure.
Voilà, mais donc voilà, moi, c'est pas ça du tout que je fais. C'est pas du cheval d'endurance. Donc, c'est des chevaux de race selle français ou selle étranger, donc belge. Moi, je connais bien les pédigrés des chevaux belges, parce que j'ai été longtemps en Belgique. Et donc, c'est un peu là-bas que je me suis formée sur tout ce qui était origine de chevaux de saut d'obstacles et tout ça. Et donc voilà, moi c'est un mélange de races européennes de chevaux de sport, voilà.
Et justement, les acquéreurs, en fait, quand ils vont venir, ils doivent aussi avoir une éthique, parce que, je veux dire, on va pas, entre guillemets, le mot est fort, mais torturer les bêtes, quoi.
Non, complètement. Donc voilà, c'est... Moi, mon éthique, c'est vraiment... Bon, j'élève des chevaux pour vraiment me faire plaisir et faire plaisir aux chevaux. Enfin voilà, le but, c'est de que tout se passe bien. Et donc, dans les acheteurs que je vais rechercher, je recherche également des gens qui vont prendre soin des chevaux. Donc, c'est des chevaux qui sont destinés à la compétition. Mais malgré tout, j'ai envie qu'il y ait quand même quelque chose de beau qui se passe et que ce soit pas purement du commerce. Mmh. Voilà. J'ai envie qu'il y ait vraiment une relation avec le cheval. J'ai envie que ceux qui achètent le cheval le gardent et l'exploitent à leur façon, mais voilà, moi j'aimerais qu'ils puissent les garder, voilà.
Comment, est-ce que c'est facile de déterminer le prix d'un cheval?
Non, c'est pas facile, donc on a des catégories de prix, on va dire. Le prix du cheval, il dépend de plein de choses, il dépend du pédigré, il dépend de l'âge, il dépend de la qualité, il dépend de vraiment beaucoup beaucoup de paramètres, donc on a des catégories. Après, si on vend le poulain foal, c'est-à-dire jusque 6 mois, voilà, à 6 mois, c'est le sevrage. Et ensuite, jusqu'à 1 an, ensuite jusque 2 ans, ensuite à 3 ans, ils sont dressés. Donc là, il y a une autre catégorie de prix et ensuite, ils sortent en compétition. Donc là, il y a encore une autre catégorie de prix et surtout qui sera réévaluée à ce moment-là. Puisque voilà, on peut estimer un foal qui soit très cher à l'âge de 6 mois, ouais. Et puis bon, ben on sait jamais, hein, il peut se blesser avant 3 ans, il peut ne pas montrer toutes les qualités qu'il montrait poulain, voilà.
Ça vit combien de paramètres? Ça vit une vingtaine d'années, 30 ans même un cheval?
Ouais, une trentaine d'années, ouais.
Trentaine d'années. Est-ce qu'on sait vite à quoi va être destiné un poulain? Donc, toi, tu t'es spécialisé dans la course, mais il y a aussi le cinéma, l'enduro dont tu parlais, que ouais. sais-je ou autre. Parce que, en plus, chaque cheval a son caractère. Est-ce qu'on sait vite à quoi il va être destiné?
Alors, disons que on peut, je pense, hein, on peut adapter différents types de chevaux à différents types d'activités. Maintenant, il y a des races plus prédisposées à certaines activités. Par exemple, c'est vrai que le cheval d'endurance, on va avoir des chevaux, plutôt des chevaux de type arabe, des chevaux qui sont fins et lancés, qui ont un bon cardio, qui sont résistants dans les pieds pour courir sur les cailloux de Lozère. Et des chevaux d'obstacles, il leur faut d'autres qualités. Donc, il y a des races qui sont plus à même d'aller vers une discipline qu'une autre. Des chevaux de spectacle, par exemple, il faut des chevaux qui soient très, très compliants, très... très très facile à dresser, qui, enfin voilà, c'est autre chose qu'un cheval de sang qui va être un peu plus fougueux, un peu plus incontrôlable, et donc ça va être plus difficile de mettre dans le cinéma, par exemple.
Ça doit être génial de voir grandir un cheval et de se dire on y arrive, que ça doit procurer une émotion de fou.
Ouais, c'est incroyable.
Alors, on en parlait vite fait, on dit souvent les 160 km de Florac, c'est une course équestre super dure. Certains la critiquent, disent notamment que les chevaux sont pas faits pour ça. C'est quoi ton avis là-dessus?
Il y a plusieurs avis, c'est sûr. Maintenant, la course de Florac, il y a eu énormément de progrès en termes sanitaires. Donc les chevaux sont extrêmement bien suivis. C'est vrai qu'il y a eu des décès sur la course des 160. Elle est vieille, je ne sais plus en quelle année elle a commencé cette course, mais maintenant c'est quand même beaucoup plus clean, on va dire. Les chevaux courent, s'il y a le moindre petit souci, ils sont arrêtés. Mmh. Et c'est pas grave s'ils ne terminent pas la course. Ouais, but, un cheval qui termine les 160 maintenant, je pense que c'est vraiment un bon cheval, mais aussi un bon cavalier, donc, et une bonne gestion de la course. Mmh. C'est pas seulement le cheval.
Comment on déconstruit un cliché et comment les choses peuvent évoluer? Alors, tu l'as dit tout à l'heure, il y a un poulain qui a débarqué il y a pas très longtemps, tout va bien?
Tout va bien.
Alors, comme je disais, j'y connais rien, mais comment ça se passe pour trouver les talons? Est-ce que, enfin, tu les laisses toute l'année? Enfin, comment? Je sais que la question peut paraître bateau, mais comment ça se passe?
Non, non, c'est pas bateau du tout. C'est vrai que, du coup, moi, je me lance dans l'élevage de chevaux de sport ici en Lozère. C'est pas évident parce que on n'a pas des talons de chevaux de sport ici. Ou alors, si, il y en a, mais disons que si on veut un petit peu vendre les produits, il faut mettre des étalons un peu reconnus dessus. Mmh. Et pour mettre des étalons reconnus dessus, en fait, ici, moi, j'ai pas trop d'autres solutions que de pratiquer l'insémination artificielle. Donc, j'ai de la chance, il y a, je pense, 5-6 ans, quelque chose comme ça, que Marion et Gaëtan Lamorinière, là, qui sont installés à la Fichade, pratiquent ça. Donc c'est juste à côté, donc c'est super pratique. Et en plus ils font ça extrêmement bien. Donc voilà, moi j'amène mes juments à la période de reproduction au centre d'insémination. Avant ça, préalablement, j'ai choisi un étalon. Donc on a des catalogues, des étalons européens, français. On choisit la race, on choisit le modèle, on choisit un peu tout. Mm-hmm. On commande la semence et ensuite elle est envoyée au centre d'insémination et à la bonne période, à l'ovulation, elle est inséminée.
Moi, voilà. C'est très clair. Tu parlais de Belgique tout à l'heure. C'est quoi les formations un peu pour devenir éleveur de chevaux?
Alors, moi, j'ai suivi aucune formation pour être éleveuse. Je me suis auto-formée sur le tas, on va dire. Et j'ai encore plein de choses à apprendre. Beaucoup, beaucoup. Maintenant, il y a plein de formations qui amènent à ça. Il y a dès le lycée, déjà. Des formations production, élevage de chevaux, il me semble à Sainte-Afrique, je crois. Voilà, vraiment des filières spécifiques et où on peut commencer assez jeune et qui peuvent être très intéressantes. Après, plus tard, moi, par exemple, ce qui m'aurait intéressé, c'est de faire le BPREA à Florac, donc qui pourrait m'apporter aussi... pas
qu'on,
mal.
Qu'on comprenne, c'est quoi le BPR?
Alors, c'est...
l'acronyme, c'est
non,
pas
Non, mais
PR,
c'est un
mais...
brevet... alors, BP, c'est le brevet professionnel. REA, je sais plus exactement, c'est... c'est un brevet professionnel agricole. Je sais plus exactement le terme. Mais pareil, le BPREA, c'est une formation, mais on peut faire élevage de brebis, on peut faire l'apiculture, on peut faire maraîchage, on peut faire... Voilà, il y a plusieurs spécificités.
J'ai compris.
Et c'est vrai que je voulais me renseigner pour l'affaire parce que je pense que ça peut apporter pas mal en termes de comptabilité, en termes de, voilà. Autre que seulement pur, l'élevage pur, quoi.
Et ça se fait au CFPPA.
Au CFPPA Florac.
Est-ce qu'il existe, alors je sais pas, donc, déjà on a parlé du pedigree, etc., mais est-ce qu'il existe des labels, je sais pas comment on pourrait appeler ça pour les chevaux?
Ouais. Donc bah, y a les papiers du cheval. Les papiers du cheval, c'est on connaît le père, la mère, les grands-parents, voilà, toute la famille. Et après, en fait, il y a des concours qui permettent de qualifier les chevaux, de les valoriser. Donc là, en l'occurrence, moi, pour la race sel français, donc la race sel français, elle est regroupée dans un ce qu'on appelle un stud book, qui s'occupe en fait de valoriser la race au mieux, donc par rapport aux autres races européennes. Donc c'est un peu la course à la meilleure jument, au meilleur étalon. Et donc dans ces concours, on y présente le cheval, on a des juges qui viennent évaluer le cheval et puis qui vont les classer, bon, très bon, élite. Donc voilà, en fonction de ça, en fait, on a, si on peut répertorier des juments, on peut classer des juments. Voilà, c'est un classement. Moi, j'aime pas trop ça, mais disons que c'est vrai que ça permet un petit peu de, par exemple, en ce qui me concerne, moi, ça me permet de juger un petit peu le type de jument que j'ai par rapport au lot de juments qu'il y a en France, et voilà, d'essayer d'orienter au mieux mes croisements et puis savoir vers où je vais, quoi. C'est vrai que c'est, disons que c'est une échelle un peu pour pouvoir juger, s'auto-évaluer aussi. Dans
et,
l'élevage.
Et puis on parlait de ça tout à l'heure, c'est le prix aussi, quoi.
Et le prix aussi également.
Forcément.
Tout à fait.
Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui a envie de travailler avec les chevaux? Alors plus qu'un livre, on en parlait un peu
ouais.
En peine.
Quel conseil? Alors c'est compliqué parce que ça demande. Bon, moi je trouve que c'est un. J'ai que deux juments. Hein. Bon, je suis toute seule à m'en occuper, mais j'ai parfois quelques gens qui m'aident, mais c'est énormément d'investissement de temps, beaucoup de temps. Beaucoup de stress aussi, hein, parce que ben, c'est pas une voiture, un cheval, donc ça se blesse, il y a beaucoup d'aléas et beaucoup d'argent. Donc il faut vraiment, disons que on se lance pas, je pense qu'on se lance pas comme ça dans l'élevage. C'est des animaux, comme on prend pas un chien pour juste prendre un chien, c'est pareil. Donc voilà, c'est vraiment de l'investissement, on peut pas lâcher du jour au lendemain, on doit être là tout le temps, c'est tous les jours. Donc voilà, faut du temps, de la patience. Un peu d'argent aussi, parce que ben, faut les nourrir, les frais vétérinaires, faut tout ça. Donc c'est beaucoup d'investissement au début. Après, c'est que du bonheur. Enfin, après, je dis, une fois qu'on arrive à allier un peu tout ça, à se débrouiller, voilà. Moi, j'en suis au terme, en fait, où j'arrive à me débrouiller pour commencer mon élevage. Mais j'ai mis vraiment longtemps à le mettre en place. Voilà.
Et puis tu disais aussi hors antenne d'aller à la rencontre des gens ouais, qui s'occupent de chevaux.
Complètement. Oui, moi, donc je lis très peu. J'ai lu le plus que j'ai lu, c'est des bouquins d'équitation de chevaux. Et c'est vrai. Mais disons que pour apprendre du monde du cheval, en fait, il y a rien de mieux que de côtoyer les chevaux et de côtoyer les gens de chevaux et tout type. Qu'il puisse y avoir, parce qu'il y a vraiment de tout dans le milieu du cheval. Moi, je peux pas dire que j'aime le milieu du cheval. J'aime le cheval, j'aime pas forcément le milieu du cheval.
C'est deux choses très différentes.
Ouais, complètement.
qu'est-ce qui t'impressionne le plus chez tes juments?
Qui m'impressionne en termes de...
D'émotion, ah. qu'est-ce qui te fait halluciner tous les jours quand tu les vois?
Moi, c'est la bête, hein. Je trouve que c'est vraiment un animal qui apporte beaucoup. On leur donne beaucoup, mais ils nous donnent énormément. Parfois, j'ai l'impression d'avoir plus appris avec les chevaux qu'avec les autres humains. C'est assez marrant. Non, c'est ils nous rendent vraiment bien ce qu'on leur donne et voilà. C'est je sais pas comment dire. Hein. C'est vrai que c'est une passion depuis toute petite.
Ouais, je comprends.
Et c'est un peu voilà. On a l'impression que c'est une communication qu'on s'apprend mutuellement et donc ça c'est super.
D'où aussi des qualités dingues, ils peuvent soigner aussi. Et d'ailleurs, ils sont très utilisés.
Ah oui, tout à fait. Ouais. Ouais. L'équithérapie, c'est quelque chose qui est bien pratiqué ici. D'ailleurs, à Zignères, il y a une dame qui fait ça avec ses chevaux. Voilà, c'est pas pour rien. Moi, je suis kiné et c'est vrai que c'est quelque chose que j'aurais bien voulu mélanger aussi un petit peu le monde du cheval, le monde de la kiné.
Tout est encore possible.
Tout est encore possible. Ouais. Après, il faut du temps. Voilà. C'est, le problème, c'est toujours le temps. Mais voilà, oui, c'est ça peut être thérapeutique, le cheval, complètement.
Merci beaucoup, Lou.
Avec plaisir.
Je sais pas, c'était une grande première pour moi. Je sais pas si j'ai posé les bonnes questions, mais en tout cas, c'était celle que je me posais. Et je finirai avec cette blague. Comme disait Alain Bachung, la nuit jument, je prends des trains à travers la... Voilà, j'ai réveillé Corto. Merci, Lou, et à très bientôt.
Avec plaisir, merci à vous.
On continue avec la prog de l'âme folle, qui sera le 8 et 9 avril prochain. Il y sera le samedi. Yanis Audua, rouge, jaune, vert.
J'aimerais voir flotter dans les airs le capot rouge, jaune, vert. Dans le conquering lion, passe ma vie de l'atmosphère. De la joie, de la bonne humeur pour mes sœurs et mes frères. Maximum de vibes positives, on laisse place au bonheur. J'aimerais voir flotter dans les airs le drapeau rouge, jaune, vert. Que le conquering lion fasse partie de l'atmosphère. De la joie, de la bonne humeur pour mes sœurs et mes frères. Maximum de vibes positives, on laisse place au bonheur. On place en premier le rouge qui montre que Rastafari bouge. Long dreadlocks ne veulent pas dire que ce sont des Rasta. On fait trop souvent l'amalgame entre Bambakou, le Rastaman. Représentant de Jah voudrait mieux respecter ça. On essaie de suivre ces lois qui ne sont pas si dures que ça. Robot que le tribe Sounayam, bon le diable de la place pour toi. Si tes intentions sont clean, c'est le bienvenu, installe-toi. Regarde bien qu'il n'y ait pas de combine, les loups sont partout à la fois. J'aimerais voir flotter dans les airs le drapeau rouge, jaune, vert. Que le conquering lion fasse partie de l'atmosphère. Que la joie, de la bonne humeur pour mes sœurs et mes frères. Maximum de vibes positives, on laisse place au bonheur. J'aimerais voir flotter dans les airs le drapeau rouge, jaune, vert. Que le conquering lion fasse partie de l'atmosphère. Que la joie, de la bonne humeur pour mes sœurs et mes frères. Maximum de vibes positives, on laisse place au bonheur. Deuxième position, le jaune symbole du soleil qui rayonne. Sur son trône, sa magnificence impressionne. Vu tout l'amour qu'il nous donne, pour lui y'en a qui rigonnent. Jusqu'à maintenant, nous pardonne dans l'espoir qu'on se perfectionne. C'est peut-être le dernier rappel avant que toutes les cloches sonnent. Peu de temps pour les querelles, y'a plus de race, y'a que des hommes. Ça ne complexe excelle, donc sont contents de ce qu'on leur donne. L'argent et l'or ont leurs fidèles qui veulent en avoir des tonnes. J'aimerais voir flotter dans les airs le drapeau rouge, jaune, vert. Que le conquering lion fasse partie de l'atmosphère. Que la joie, de la bonne humeur mes sœurs et mes frères. Maximum de vibes positives, on laisse place au bonheur. J'aimerais voir flotter dans les airs le drapeau rouge, jaune, vert. Que le conquering lion fasse partie de l'atmosphère. De la joie, de la bonne humeur pour mes sœurs et mes frères. Maximum de vibes positives, on laisse place au bonheur. Représente Zion pour une bonne méditation. Respecter la faune des champs, seule l'évasion qui fonctionne. C'est normal d'enfermer les hommes, interdire tous les mobiles hommes. Sur la liberté, on se questionne en plein cœur de Babylone. Le verre, c'est aussi tout ce qu'il y a de naturel, non?
Qui vit behind red, tout
ça vaut bon red. Jaune vers la rouge spirituelle, non?
C'est notre remède, put it in my head.
J'aimerais voir flotter dans les airs le drapeau rouge, jaune, vert. Que le con fasse partie de l'atmosphère. Que la joie, de la bonne humeur pour mes sœurs et mes frères. Maximum de vibes positives, on laisse place au bonheur. J'aimerais voir flotter dans les airs le drapeau rouge, jaune, vert. Que le conquering lion fasse partie de l'atmosphère. Que la joie, de la bonne humeur pour mes sœurs et mes frères. Maximum de vibes positives, on laisse place au bonheur.
Yanis Audua, rouge, jaune, vert, à l'âme folle, donc le samedi 9 avril. Sans transition aucune, Titouan était parti à la rencontre de Walid Bentlim à Chaha. Je vous propose de réécouter son reportage.
Alors bonjour à toutes et à tous, nous sommes à Chanak en compagnie de Walid Ben Salim dans le cadre du projet Résidence de création. Bonjour.
Bonjour.
Peux-tu te présenter, toi et ton parcours ?
Mon parcours, je le laisse se présenter tout seul. Non, alors moi, je me présente, je m'appelle Walid Ben Salim, je suis musicien et j'essaye en tout cas. Je fais partie de pas mal de créations, notamment soutenues par le Silo, dont Orient Express, Nascentia. Je fais aussi partie d'un groupe, un collectif d'artistes qui s'appelle Nordistan. On a pas mal joué à des tours du monde. Je pense qu'il n'y a qu'une seule saison que j'ai ratée. Donc, ouais, voilà.
majoritairement, tu tournes en Lozère, en fait ?
Pas du tout. Alors, je tourne... Non, c'est majoritairement, je tourne la plupart du temps. Je suis à l'étranger. Et j'aime bien jouer dans des endroits en France, comme la Lozère, j'adore, ou par exemple l'Aquitaine. C'est les deux endroits où je joue le plus en France, mais sinon, tous les autres, ou à Paris... quand il y a des théâtres ou des salles de spectacle qui nous demandent, mais sinon, majoritairement, c'est à l'international.
Et tu peux nous expliquer en quoi consiste ce projet, du coup ?
En fait, ce projet, on a commencé à y réfléchir à la veille du discours annulant le reste de notre vie. Je parle du deuxième confinement. Pendant le premier confinement, j'avais fait des petites capsules où j'invitais des musiciens sur Internet. Donc chacun était dans un coin et j'essayais en fait de garder le lien, parce que c'est ce qui manquait le plus, le lien avec les autres musiciens, de jouer avec d'autres gens. On avait fait ça avec Nan, avec Nan Dian qui joue du Gushan. J'avais fait ça avec Alain Diaz, qui est un guitariste flamenco, avec Nidal Jawa en Tunisie. Donc on était un peu éparpillés dans le monde et on jouait des choses de 5 minutes à 10 minutes. On a fait ça avec Pierce Faccini. Et petit à petit, quand ils ont commencé à parler avec les bruits du couloir, les bruits de couloir, comme quoi ils allaient faire un deuxième confinement. Pour nous, c'était une évidence qu'il ne fallait pas qu'on attende que des gens dans des bureaux dorés nous donnent l'autorisation de travailler. Donc on a contacté pas mal de gens et les scènes croisées et des Tours du Monde et le Silo ont voulu suivre ce projet. Donc on s'est retrouvés pour faire ces capsules-là. J'ai appelé les deux musiciens avec qui je voulais travailler. Et voilà, l'idée, elle est partie de là, de faire une lecture poétique accompagnée de musique sur une création éphémère.
Et pourquoi mélanger du coup musique et poésie ?
Bah, pourquoi pas ? En fait, je pense que ça a toujours été le cas. C'est-à-dire que depuis le début de la musique, on a toujours mis en musique des poésies. Des fois, on a composé de la musique en s'inspirant de poésie. C'est le cas de Debussy, c'est le cas de Léo Ferré, c'est le cas de pas mal, Jacques Brel, enfin tous les. C'est quelque chose d'assez naturel, quoi. Le rap, c'est une poésie, donc c'est toujours lié. Les deux arts sont très très liés. Donc nous, ce qu'on fait, c'est aussi d'inviter en fait Simo Bouchra, qui est plutôt comédien, donc qui a une autre approche de la présence scénique. Et musicalement, c'est vrai que le mélange là qui se crée, c'est surtout de rappeler une poésie très ancienne ou une poésie arabe avec de la musique classique ou de la musique orientale, chinoise, voilà. Et on adore faire ça, quoi. Pour nous, ça se marie bien. Après, il faut voir pour les autres si ça se marie bien. Voilà. C'est généralement le public qui juge.
Pourquoi inviter d'autres artistes pour ce projet et qui sont-ils ?
Pourquoi inviter d'autres artistes ? Parce qu'on se sent vraiment seul quand on est seul. Donc c'est le principe de jouer avec des gens. Moi j'ai l'habitude de composer sur des ordinateurs, donc d'être seul tout le temps. Mais c'est toujours un plaisir de voir une autre idée de la création. On est tous complémentaires dans sur ces créations-là, et globalement on est tous complémentaires, que ce soit en famille ou même en société. Là on a décidé d'inviter que des gens avec qui j'avais travaillé. On en a discuté avec We Dead Njama qui joue avec moi, qui fait partie du collectif Nerdistan. Simo Bouchra est un ami de longue date, comédien de talent, et pareil, ça faisait des années qu'on voulait travailler ensemble, et là c'était l'occasion rêvée pour faire ça, surtout que c'est une lecture poétique et pas un spectacle musical, donc c'était le moment. Agathe Di Piro, je travaille avec elle, c'est une pianiste très talentueuse avec qui je travaille sur le lanceur de dés. C'est une création soutenue par Unisson. et le Festival Arabesque et les instituts français. Donc je la connais depuis maintenant 2 ou 3 ans. On travaille bien ensemble parce qu'elle adore l'improvisation, elle est très compétente là-dedans. Et Nan Jiang, que je connais depuis maintenant 5 ans, j'ai travaillé avec elle sur Orient Express, soutenue par le Silo, c'était une carte blanche du Silo. Et elle, c'est une... je dirais, c'est un talent fou, quoi. C'est vraiment quelqu'un qui travaille énormément, qui a une oreille exceptionnelle et qui s'acharne, et j'adore ça. Enfin, donc voilà, on est que des... Et elle joue du guxian, donc un instrument chinois.
Est-ce que tu peux nous expliquer un peu le processus de création? Comment vous du coup liez musique et les textes de poésie que vous choisissez?
Bah, le premier jour, on est arrivé, donc on a commencé juste à se connaître, parce que moi, je les connaissais tous, mais eux, ils ne se connaissaient pas tous entre eux et toutes entre elles. Donc on a commencé par se connaître musicalement, chacun proposant un texte ou une mélodie. Et petit à petit, on voit que ça se crée... vraiment, c'est très fluide, donc ça se crée assez naturellement. Donc, voilà, je ne sais pas comment la magie opère, mais du moment qu'elle opère, on ne se pose pas la question de... Enfin, il n'y a pas de processus, pas de process, en fait. Il n'y a pas de process de créativité. Il y a certains se réveillent le matin très tôt pour commencer, d'autres travaillent très tard le soir. Mais à la fin, on se retrouve généralement pour créer ensemble. Le fond, par exemple, on est 3 à faire de la lecture, donc chacun est libre de choisir ce qu'il veut lire, voilà. Et musicalement, pareil, on est vraiment pour la liberté, là, pour le coup.
Donc chacun ajoute sa pierre à l'édifice quand il veut, selon ses goûts.
Exactement.
Et depuis quand travailles-tu avec le Silo et les scènes croisées ?
Alors, le Silo, j'avais fait une création en 2017 ou 2018, je ne me rappelle plus. Non, je pense que c'est 2017, ouais. Donc, Orient Express, où j'avais invité Nan Jiang. Et l'année dernière, Fabien Moutet m'a appelé, qui est le coordinateur du Silo, m'a appelé pour me proposer d'être artiste associé sur 3 ans avec le Silo, donc d'accompagner aussi les créations qu'ils allaient choisir ou de proposer des artistes. Donc je les connais depuis maintenant presque 4 ou 5 ans, le Silo et toute l'équipe. Florian Olivérès était dans le Silo avant, c'est lui qui m'avait donné la carte blanche, donc et qui est maintenant à la tête des scènes croisées. Donc voilà, enfin c'est des connaissances humaines avant tout. Donc vraiment on s'est rencontrés sur les routes des concerts, que ce soit avec Nordistan, avec mes autres formations, et le contact s'est fait assez rapidement, c'est fluide, et j'adore ça. Donc je les connais depuis ce temps. On travaille ensemble sur des créations quand ils m'invitent, ou moi quand je peux les inviter aussi sur des entreprises créatives. Donc quand j'ai besoin, ils étaient toujours là. Donc voilà, j'adore. Et en plus, le Shanak, je kiffe ça. Vraiment. Pour travailler, c'est un cadre exceptionnel.
Vous avez déjà interviewé, du coup, Walid?
D'accord. Et du coup, j'ai vu que vous faisiez ce projet en 6 jours et vous le diffusiez pendant 3 jours. Pourquoi, du coup, réaliser un tel projet en si peu de temps?
On s'était dit au tout début qu'il fallait qu'on... Bah, enfin, alors, l'idée du début, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment... est partie de ce que j'avais fait pendant le premier confinement, et c'était des choses qui se faisaient assez rapidement. C'est-à-dire, on fait une création, on la monte, où on se rend compte sur Internet, et on joue en même temps, en temps réel, quand on peut, quand la connexion le permet. Donc on faisait ça en temps réel. Et on aime bien cette idée de que ça soit spontané, quoi. Donc là, c'est exactement la même chose. Il y a cette idée de garder cette spontanéité du moment et de la création et jouer avec nos faiblesses, quoi. Donc garder ces faiblesses là pour se dire ok, tu peux faire des fausses notes, tu peux mal interpréter ou des choses comme ça, mais garder ça parce que ça fait partie de la vie. On ne propose pas un produit mainstream ou un produit tout court. Donc, on propose une version de nous. Et cette version, si généralement on la propose pure, genre magnifiée, elle est déjà pas nous, quoi. Donc c'est un personnage qu'on va utiliser. L'autre idée, c'était de dire que dans ces temps où tout le monde, où par exemple le gouvernement a choisi d'interdire le travail au bar, au restaurant, aux salles de concert, et tous les autres peuvent travailler, de leur dire non, mais en si peu de temps, bien sûr qu'on peut travailler et proposer des choses qui puissent accompagner les gens qui vont travailler. C'est-à-dire qu'on ne va pas rester les bras croisés à attendre qu'ils nous donnent l'autorisation. Voilà, liberté.
Que penses-tu de l'avenir de la culture en France et du statut d'intermittent ?
L'avenir de la culture en France sera révolutionnaire. L'avenir de l'intermittent, ce sera dans les rues, bientôt.
As-tu le sentiment que la culture est oubliée par une partie de la population et par les politiques ?
Par la population, non. Vraiment non, parce qu'on le voit sur les chiffres. Nous, on a un contact direct avec nos auditeurs, ceux qui nous suivent. Donc on a un contact direct des gens qui participent aux écoutes, que ce soit sur Spotify, Deezer, on a les chiffres. Donc les gens écoutent la musique, les gens regardent nos vidéos, on a des chiffres. On peut évoluer l'impact de notre démarche, en fait, sur nos auditeurs. Par les politiques, par une partie des politiques, oui, bien entendu, ils sont. Pour eux, je sais même pas si. Pour eux, c'est vraiment un produit. Donc forcément, ils. Disons que le problème, il est viscéralement lié à leur incompétence. Voilà. Je veux dire, enfin, on peut dire la culture, mais on peut dire n'importe quelle. Quel corps de métier, les restaurateurs aussi. Je veux dire, ils ont oublié pas mal de gens là. Ils ont oublié les médecins, ils ont oublié les. Je veux dire, on peut citer quelques secteurs qu'ils n'ont pas oubliés. Et on peut les compter, genre l'aéronautique, la banque. Voilà, ça ils les ont pas. L'armement, ils n'ont pas oublié ça. Voilà, Total. Mais sinon, tous les autres sont oubliés, bien entendu.
Du coup, la consommation de la culture a changé avec le confinement. C'est beaucoup moins matériel, beaucoup moins physique, comme il n'y a plus d'événements en présentiel, de toute façon. Et comment tu fais, du coup, pour t'adapter, puisque tu es habitué au spectacle vivant, et comment tu fais pour t'adapter, en fait, à ce changement, à ce filtre qui est la caméra et le micro entre ton public et toi ? Est-ce que ça change quelque chose, en fait ?
Ah ben oui, c'est radical, ça change tout. Forcément, nous, quand on a commencé à faire ces capsules-là pendant le premier confinement, au début, il y avait l'euphorie du moment de dire voilà, on va quand même rester à proposer des choses aux gens, les gens enfin suivaient, ils regardaient et tout, mais quand même, c'était compliqué de voir des petits cœurs et des likes monter quand on est en live sur Facebook au lieu de voir des gens qui applaudissent. Et qui sont avec nous, qui nous renvoient une énergie. Donc, à la sortie du premier confinement, on a fait le premier concert. C'était au Bouillon Cube. Je sais pas si vous voyez où c'est. C'est pas loin. C'est ici. Ça reste dans les Cévennes. Enfin, à côté. C'était le premier concert qu'on a fait. C'était le 19, je pense, 19 juin. Et en fait, on a redécouvert le public, quoi. Vraiment, c'était une redécouverte du public. Donc là, aujourd'hui, on se réadapte parce que on subit la politique d'un gouvernement ou des gouvernements en général. Hein, je ne parle pas que du gouvernement français, tous les gouvernements confondus. Et, on subit leur politique et du coup, on est obligé de s'adapter. On repart sur ces capsules-là en faisant du lien avec le public sur Internet. Mais je pense, enfin. La consommation de culture ne baissera pas, parce qu'on l'a vu quand on est reparti sur les concerts. Nos concerts étaient blindés, c'est-à-dire qu'on était les gens au fond n'en peuvent plus, quoi. Point. C'est-à-dire qu'on peut pas ne pas passer. C'est aussi vieux que l'humanité. Les premières salles de spectacle, c'est pas les années 20, quoi. Enfin, on a déjà le quorum chez les Grecs, on a chez des Égyptiens, on a déjà des spectacles. Enfin, c'est ça ne s'arrêtera pas à moins que et même si l'électricité s'arrête, ça s'arrêtera pas. Le spectacle vivant, c'est sa force, c'est qu'il est vivant. Voilà, donc forcément, on se mettra. On se mettra dans nos fenêtres, on ira dans la rue quand il faudra aller dans la rue et voilà, on fera du spectacle vivant et même très vivant.
Et voilà pour cette matinale. Eh bien, merci Corto.
Eh bien, de rien. Prends-moi ces techniques.
Bien joué. On se retrouve lundi avec JBD qui vous propose l'émission Polémix le jeudi à 11h sur Bartas et aussi avec l'association OACADI qui a un projet radio avec le collège de Vialas du 11 au 15 avril. Et d'ailleurs, à ce propos, ils recherchent des personnes qui ont réalisé leurs rêves, des artistes, des comédiens, des circassiens, j'en passe, et des meilleurs. Ça peut même être n'importe quoi, en fait. Hein. En tout cas, des gens qui sont motivés pour parler d'eux pour que les collégiens puissent les interviewer. Le festival de la Meufolle, c'est 8 et 9 avril prochain. Toutes les infos, c'est sur meufolle.com. Il me reste à vous souhaiter une excellente journée. On se quitte avec Catégorique. Elle sera le samedi soir au festival. La chanson, c'est La Générale. Passez une excellente journée. À lundi. Ciao.
En première classe, quitte à Dallas, boule, tu passes. Dès que tes rappeurs l'ouvrent, on comprend que tout y passe. Tout tes soupes grid, roule le name comme Chinese man. J'ai la technique qui copie, je te parle pas de Sharingan. Dans le game comme dans la prairie, mais plus méchante que Charlene Gals. Dès que je rentre, c'est tout, 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 je prends tout comme Gengis Khan. Quitte à jeune, Missy Elliott, Matteo, c'est Timbo. Get your freak on, lose contrôle des fucking basses. L'industrie me lasse, vrai MC, I'm the last. Smoke ses rappeurs comme Zaza pendant que j'écoute du Nas. Ceinture noire et SNC, disrespectivement cessé. Laisse au père de faire ce que je veux, je porte fièrement ce blase. R.I.P. Cobis, tu t'as pas, je passe pas la balle. Je suis ivoirienne comme virus, forcément je vais parler mal. La vie c'est dangereux, mais personne n'est avec un casque. J'ai vu mal dans leurs yeux, leur vrai visage derrière le masque. Let's get it, t'es rouet. Drake Lock style, la la Lauryn Hill, ouais. Last General, entraîné pour kill, ouais. 225 balles en plein dans le mille, ouais. Dans le... T'es rouet. Drake Lock style, la la Lauryn Hill, ouais. Last General, entraîné pour kill, ouais. 225 balles en plein dans le mille, ouais. Dans le... Diaspora gang, genre je résiste comme un marron. Flot de daron sur l'instrumental, je développe ma science. Retire tes troupes militaires néocoloniales de nos pays avant qu'on envisage la notion de confiance. Ils portent des photos, jouent aux gangsters, mais leurs bandanas viennent de Wish. Et le pire de tout, c'est qu'en plus ils sont contents. Influence suceurs vendent des arnaques aux adolescents sur Snapchat pendant que d'autres jeunes meurent en cherchant du coltan. J'ai plus de flow qu'une femme fontaine, et sur le jet d'eau de Genève. Organisé comme les Nations Unies, droit de veto, ils vont l'avoir mauvaise. Africaine comme Mavé, je les mets sur la ligne verte comme café, je rappe comme si ta mère t'avait baffé. Original de Tini à boifler. Tout est real, ouais. Dreadlock style à la Lauryn Hill, ouais. Last General, entraîné pour kill, ouais. 225 balles en plein dans le mille, ouais. Dans le... Tout est real, ouais. Dreadlock style à la Lauryn Hill, ouais. Last General, entraîné pour kill, ouais. 225 balles en plein dans le mille, ouais. Dans le motherfucker, je suis à des années-lumière, je suis à des années. Oh yeah. Plus gravité roule sur terrain terraformé. Oh yeah. Planète Terre est loin derrière, ils ont tout fait foirer. Je suis la dernière enfoirée qui peut les venir à plein soirée. Motherfucker, je suis à des années-lumière, je suis à des années. Oh yeah. Plus gravité roule sur terrain terraformé. Oh yeah. Planète Terre est loin derrière, ils ont tout fait foirer. Je suis la dernière enfoirée qui peut les venir à plein soirée. Oh yeah. T'es real, ouais. Dreadlock style à la Lauryn Hill, ouais. Last General, entraîné pour kill, ouais. 225 balles en plein dans le mille, ouais. Dans le... T'es real, ouais. Dreadlock style à la Lauryn Hill, ouais. Last General, entraîné pour kill, ouais. 225 balles en plein dans le mille, ouais. Dans le... Diaspora gang, je résiste comme un marron flon de daron. L'industrie me lasse, vrai MC, I'm the last. J'suis la dernière enfoirée qui peut...